C'est ici qu'il y a deux façons de procéder. Ou bien vous vous enterrez, ou bien vous continuez. Alors, par quoi voulez-vous continuer maintenant? Je vous laisse le choix. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jusqu'à présent, ce n'est pas trop difficile. Vous êtes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord? Lève la main. Je peux sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Montrer la... La perte d'autorité. Ah, vous pouvez essayer. Mais qu'est-ce que vous faites en faisant cela? Oui, bon, ben, je veux bien. Donc, les apôtres meurent, patatras, c'est fini. Et alors? Qu'est-ce que je risque ici, en apportant directement ce que j'appellerais, et vous connaissez ce terme, pour soi je vais l'utiliser, l'apostasie. Qu'est-ce que je risque de faire à ce moment-ci? Oui, je vais les gêner un peu. Je vais gêner n'importe qui. C'est-à-dire que je risque de fermer la possibilité que j'ai d'enseigner. Vous allez voir que je n'en parle pas, pour l'instant. Vous allez voir comment je vais sauter... Pour l'instant, l'apostasie, je vais y revenir tout de suite, mais d'une façon beaucoup plus élégante. Vous allez voir comment. Ceci s'est passé il y a, bien sûr, 2000 ans. La question se pose entre vous et moi, aujourd'hui, de savoir où est-ce qu'elle se trouve, cette Église, aujourd'hui, en 77. Est-ce que c'est l'Église catholique, c'est la protestante, c'est celle-là ou c'est la mienne? Nous avons plusieurs affirmations. Comment est-ce qu'on peut trouver la vérité? Quelle est la vraie Église, au fond, qui représente l'Église de Jésus-Christ? Et pour le savoir, nous allons un peu reculer en arrière. Nous allons reculer en 1820. En 1820, où un jeune homme, du nom de José Smith, s'est posé également la question que vous avez, vous et moi, aujourd'hui. Il a en face de lui... Quoi? Eh bien, de nombreuses églises. Inutile de donner tous les noms, vous le savez comme moi, il y en a pas mal qui se disent être la continuatrice, ou il y a des réformatrices, ou il y a des nouvelles églises. Bref, il y a toute une série d'églises qui se présentent à José Smith. Et notez-le bien, ce jeune homme, quel est son désir? Ce n'est pas d'être un réformateur. Ce n'est pas d'établir quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle philosophie. Non, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut trouver cette Église, c'est-à-dire il veut s'affilier à l'une d'entre elles, parce qu'il croit sincèrement qu'en 1820, il doit au moins y avoir quand même une Église qui me donne tous les principes, toutes les ordonnances ou les sacrements, qui a l'autorité pour me permettre de... trouver la vie éternelle. Joseph Smith étant frappé par ce fait qu'il y a autant d'églises, a en fait deux solutions devant lui. Ou bien il va demander à chaque pasteur, c'est vous qui avez la vérité? Et qu'est-ce qu'il risque d'avoir comme réponse? C'est moi. Et il n'a toujours pas de réponse. Ou bien il y a une deuxième solution, et lorsque l'on regarde, lorsque l'on compulse un peu ici l'histoire de la religion, lorsqu'on veut rechercher ce qui s'est passé, on est frappé par le fait que Dieu a toujours communiqué sa volonté, a toujours communiqué aux hommes, soit par l'intermédiaire de prophètes, soit comme quand son fils Jésus-Christ nous l'a enseigné, en répondant à nos prières. Vous vous souvenez, n'a-t-il pas dit? Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout le monde connaît ces écritures, c'est assez simple. Eh bien, Joseph Smith ayant été frappé de ce que la source de toute vérité, qui est Dieu, répond quand on lui demande, bien sûr avec foi et avec sincérité, s'est dit, mais au fond, pourquoi est-ce que je ne m'essayerai pas moi-même? Et c'est ce qu'il a fait. Joseph Smith est donc allé prier, et en réponse à sa prière, a une vision du Père et du Fils. le père présente son fils en lui disant « Voici mon fils bien-aimé, écoute-le ». Et Joseph Smith peut donc poser sa question. Quelle est sa question encore? C'est ça qui l'intéressait, il voulait, je vous le rappelle, il voulait se joindre à Wendell. Et la réponse vient de ce même Jésus-Christ, le créateur de son Église, qui nous donne tous les enseignements nécessaires. Je regrette, mais il n'y a aucune de ces églises qui représente tous les principes, tous les enseignements, qui a l'autorité pour retourner en présence du Père Céleste. Elles ont des morceaux ou des bribes de vérité, mais une qui l'a, il n'y en a plus. Nous apprenons donc en 1820, non pas par un homme, mais nous apprenons directement de la source de vérité, c'est-à-dire du Fils de Dieu, le même qui a été dit son Église, qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien de valable. Bon, est-ce que vous venez de comprendre comment j'ai abordé l'apostasie? Au lieu que c'est moi qui dise « il y a apostasie », qui est-ce qui vient de déclarer qu'il y a apostasie? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui le déclare. Votre position est beaucoup plus forte. Vous n'avez pas à dire « oui, mais les Écritures disent, par exemple, je vais vite vous trouver dans la Bible, vous savez, qu'il y aura une perte de la vérité, etc. » Vous risquez toujours la réponse « oui, mais n'importe qui, ou on peut interpréter les Écritures à sa façon. » Moi, je peux les interpréter d'une autre façon. Ici, vous ne risquez plus rien. Pourquoi? Parce que vous faites appel à la révélation, qui est la source de vérité, qui est permanente, qui a toujours existé. Donc, vous avez beaucoup plus facile. Le fait que Joseph Smith ait cette vision, que le Père, le Fils lui parle, veut dire donc qu'il y a de nouveau communication entre Dieu et les hommes. Cette communication s'étant établie, pour résumer l'histoire, nous apprenons qu'entre 1820 et 1830, Joseph Smith va recevoir d'autres révélations, puisqu'il n'y a plus d'église qui représente véritablement tous les enseignements. Eh bien, Joseph Smith va recevoir de la part du même Jésus-Christ tous les enseignements, les principes, les sacrements, les ordonnances, la prêtrise, l'autorité, tout ce qui est nécessaire, encore une fois, de façon à nous permettre d'obtenir la vie éternelle. Voilà ce qui se passe en bref. C'est-à-dire que Joseph Smith, du fait qu'il a eu une vision, et si on regarde encore une fois ce qui s'est passé auparavant, comment est-ce qu'on doit l'appeler? Normalement, logiquement, on doit l'appeler un prophète, bien sûr. C'est l'histoire qui se répète. Par quel pouvoir est-ce qu'il aurait pu organiser l'Église quand on regarde ce qui s'est fait auparavant? Par le pouvoir de la prêtrise. C'est logique, ça s'est toujours passé comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, en fait, en vous racontant cette histoire? J'ai fait appel à la raison, à la logique. Est-ce que j'ai parlé de prière, de spiritualité, de témoignage? J'ai rien fait pour le moment. Pour le moment, j'essaie simplement de montrer à la personne qui se trouve en face de moi que tout ce que je raconte, c'est plausible. On peut le croire. C'est possible. La plus grosse objection que nous avons quand nous commençons notre histoire de Joseph Smith, c'est la vision, vous êtes bien d'accord. Les gens ont très difficile à l'accepter. Si vous le racontez de cette façon-ci, et en montrant tout ce qui s'est passé avant, cela devient acceptable. Vous avez aplani l'objection. Maintenant que vous avez fait appel à la raison, est-ce que je peux terminer mon histoire? Est-ce que c'est fini? Ou qu'est-ce que je dois encore faire maintenant? J'ai fini mon travail?
Il faut arrêter l'histoire.
Oui, donc qu'est-ce que je vais faire alors? Qu'est-ce que je dois apporter? Il me manque un élément pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Oui, très bien. cet élément et quoi encore? Qu'est-ce qui me manque encore? Oui, d'accord. Mais comment est-ce que je sais qu'il y a un prophète vivant? Oui, à qui cette fois-ci? À qui est venue cette révélation qu'il y a un prophète vivant aujourd'hui? À vous-même. Donc, je répète, j'ai fait appel à la raison, maintenant je vais faire appel à son cœur et à son esprit. C'est-à-dire que je vais témoigner. Ça, c'est la deuxième phase très importante. Faites très attention. Jusqu'à présent, logique, raison. Deuxième coup de poing, deuxième phase, la spiritualité, je fais appel à son cœur et à son esprit. Je lui dis, bon, je vous ai raconté toute cette histoire, nous sommes en 77, vous pouvez vous demander, est-ce que ça existe toujours? Je vous affirme que oui, je vous déclare que oui, qu'aujourd'hui, il y a cette église que l'on appelle l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'il y a un prophète à sa tête, que Jésus est le Christ, et que je sais personnellement que cela est vrai. Comment est-ce que je l'ai su? Et je rends témoignage comment moi j'ai acquis ce témoignage que je sais que le livre de Mormon est vrai. Parce qu'il y a deux choses maintenant que j'introduis, deux preuves que personne ne peut dénier ou renier. La première, c'est votre témoignage personnel, vous êtes là en face de lui, il ne peut pas le nier.